Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer la matinée ensemble et nous avons beaucoup de choses à discuter ensemble. On va parler de crédit d'impôt pour acheter local en deuxième heure d'émission. Est-ce que ça vous inciterait à acheter plus de produits québécois? On va également vous présenter avec Mathieu Roy une série d'idées pour vos cadeaux techno. Mais d'abord, est-ce que c'est votre genre de fumer un joint et de prendre le volant? Est-ce que vous êtes capable de savoir si vous avez toutes vos facultés pour conduire? Ben, c'est notre premier sujet. Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine, il se trouve que il va y avoir en place la nouvelle loi sur tolérance zéro. Je vous présente tout de suite mes invités pour en discuter. Parce que vous remarquerez que j'ai la voix légèrement abîmée ce matin. Fait que ça tombe bien. Tu sais, il y en a qui trouvent que je parle trop des fois dans l'émission. Hey, ce matin, ça va-tu bien aller? On va parler un petit peu moins et laisser toute la place à mes invités, Maître Éric Lamontagne, avocat criminaliste chez Contravention Expert. Merci d'être là, Éric.
Bonjour, Isabelle.
Michel Morin est avocat, auteur de l'essai « Au cannabis ». Merci, Michel.
Plaisir.
François Doré est policier, à la retraite maintenant, mais il connaît bien le milieu. Merci, François, d'être avec nous.
Bonjour, Isabelle.
Maître Lamontagne, effectivement, la semaine prochaine, entrée en vigueur de cette loi qui est pas très clair. Éclairez-nous, si vous pouvez, vous, ce matin, là-dessus. Qu'est-ce qui se passe le 18 décembre prochain?
Ben, il y a des modifications, en fait, qui vont entrer en vigueur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Si on se concentre particulièrement sur tout ce qui est faculté affaiblie par la drogue ou l'alcool, il y a des modifications des deux côtés. Des points importants que je pourrais t'en parler pendant une heure, là, il y a quand même plusieurs choses. Retenons que maintenant, pour l'alcool, les policiers vont pouvoir vous intercepter sans motif pour vous faire souffler dans un appareil de détection d'alcool sur le bord de la route.
Sans motif.
C'est ça. Alors, à ce moment-là, donc, évidemment, c'est lors d'une arrestation, une interception plutôt qui est légale en vertu du Code de la sécurité routière, mais on sait qu'en vertu de l'article 636 du Code, ils peuvent vous arrêter simplement pour des fins d'identification. Alors, dans ce contexte-là, vous devez vous attendre à pouvoir vous faire intercepter et on vous demande de souffler dans l'appareil de détection d'alcool sans que les policiers aient de motif de croire que vous avez bu.
Ah, oui, mais si on refuse.
Ben, c'est un refus, c'est une infraction criminelle.
De refuser?
Oui, exactement.
Passible de quoi?
Oh, c'est une infraction criminelle qui est passible au même titre. C'est un facteur aggravant, même par rapport à une faculté affaiblie normale. Alors, théoriquement, si je prends l'alcool, une suspension normale, quelqu'un qui a un taux de 0.8 et en bas du double, aurait, à ce moment-là, un an de suspension de permis de conduire. Avec un refus, on parle de 3 ans.
Ouais. François Doré, là-dessus? Effectivement, oui. Tu es d'accord avec ce que vient de dire Maître Lamontagne?
Bien, avec les détails de ce qu'il vient de dire, oui, bien sûr. L'application, faut voir comment ça va se passer, parce que d'arrêter, ou du moins de faire souffler les gens au hasard, c'est totalement nouveau. Est-ce que la simple interception d'un contrevenant pour un excès de vitesse, pour une ceinture, pour un changement de voie, pour suivre le trop près, et là, le policier décide que, bon, je vais te faire souffler, voici mon ADA, souffle fort, puis OK, je vais regarder le résultat.
Pendant que je t'arrête pour autre chose, souffle donc dans la balloune, tu sais, en
c'est
même
ça.
Temps, c'est ça?
Moi, écoute, j'ai été élevé, j'ai grandi dans ça te prend des motifs pour procéder à l'interception d'une personne. Boulevard métropolitain, c'était pas difficile, OK? Sur toutes les routes du Québec, c'est pas nécessairement très difficile de trouver des motifs. Aujourd'hui, ça change. Va falloir voir de quelle façon on peut le mettre en application. Est-ce que ça va devenir abusif ou non? L'avenir le dira, mais je vais être prudent là-dessus.
Mais bon, ton opinion là-dessus, Michel Morin?
Bien, ça risque de se ramasser dans les tribunaux assez rapidement parce que c'est éminemment arbitraire, effectivement, comme mes collègues l'ont dit.
Complètement.
Là, on n'a même pas besoin d'avoir de soupçons à la limite. improvisation complète, dans le sens qu'un policier zélé peut décider que, bon, parce qu'il t'aime pas la face, il va te soumettre à la DA.
Ouais.
Non, c'est pas quelque chose qui est une bonne idée. Mais évidemment, on va glisser sur le terrain du cannabis
oui,
où, bon, c'est la politique tolérance zéro et mm-hmm. où des corps de police vont se munir des fameux MDDA, le matériel de détection approuvé, les drogueurs de drug test. Et là, on peut se lancer dans un long débat parce que tolérance zéro, à quelque part, bien, évidemment que ça se mesure, bon, je veux pas être trop technique, mais en nanogrammes, donc de THC par millilitre de sang. Évidemment, mes collègues le savent très bien, on peut très bien avoir de légères traces de THC dans le sang. Ça veut pas dire que l'effet du cannabis est contemporain à la conduite, de un, et de deux, que c'est suffisamment élevé comme taux pour réduire les capacités de conduite. Alors, c'est tout un débat, là.
C'est 2 nanogrammes de THC dans le système, apparemment, Maître Lamontagne.
Je te permets, on a des lois, il faut comprendre, c'est le fédéral qui a fait la loi.
C'est
cependant,
ça.
Les provinces ont le pouvoir de légiférer. Le Québec a dit tolérance zéro.
Ouais.
Alors, au Québec, on n'est pas dans les nanogrammes, on est tolérance zéro.
C'est ça.
Ah, fait que c'est zéro au Québec.
Ouais.
Mais si mettons, les gens qui nous écoutent à Gatineau, ils sont à Ottawa, c'est plus la même politique.
la politique fédérale. Ça, en fait, les provinces ont le pouvoir de légiférer. Nous, au Québec, on a décidé que serait tolérance zéro.
C'était zéro.
À Ottawa, on est à 2 nanogrammes, et à partir de 2 nanogrammes.
C'est ça. Donc, à partir du 18 prochain, c'est la loi qui introduit notamment la tolérance zéro en matière de drogue au volant, en interdisant de conduire un véhicule s'il y a présence détectable de cannabis ou d'une autre drogue dans la salive. Oui. Fait que là, on parle de tests salivaires, François.
Oui, mais là, il faut faire attention. Hein. C'est deux choses totalement indépendantes l'une de l'autre.
Ouais.
La conduite avec des capacités affaiblies et le taux dans le sang. Mm. Que ce soit de l'alcool, que ce soit une drogue, c'est deux choses différentes. Et il y a deux avocats ici qui m'entourent. Là.
Ouais.
Vous le diront, ce sont deux accusations différentes.
Deux infractions.
Conduire avec des capacités affaiblies et conduire avec un taux plus élevé que la limite légale permise.
Alors, d'alcool.
D'alcool
ou de drogue.
Ou de drogue. Ici, ouais. On parle de tolérance zéro pour le Québec. Et ça se mesure, ça. Mais il ne faut pas l'oublier. Deux choses totalement séparées qui sont indépendantes l'une de l'autre et qui peuvent être poursuivies.
Ouais.
Qui peuvent être poursuivies.
Et ce qui est vraiment tricky avec le cannabis, on entre dans un nouveau territoire, c'est que, évidemment, quelqu'un qui prend un coup à l'alcool, 48 heures plus tard, il n'y aura plus de traces d'alcool dans son sang. Évidemment, quelqu'un qui est un usager régulier de cannabis, les traces de THC vont demeurer longtemps dans le sang. Et même dans la salive, ça peut demeurer jusqu'à 8, 10 heures, alors que l'effet est dissipé. Alors, c'est quelque chose qui est
OK,
qui est
donc complexe. Comment on sait si on est correct ou pas?
C'est difficile. Et moi, c'est pour ça que je le dis toujours, vivement conforme le plus possible des experts en reconnaissance de drogue. On n'en a pas suffisamment. On en a, je pense, 130, François me corrigera, à peu près au Québec en ce moment. Il faudrait vraiment...
Des policiers
qui sont formés, des experts en connaissance de drogue, qui en 12 étapes vont être capables de prendre un conducteur et d'évaluer. Puis, règle générale, c'est assez fiable comme conclusion. Là.
Oui, parce qu'il y a des causes qui ont été traduites devant les tribunaux, justement, avec ces agents évaluateurs-là en reconnaissance de drogue qui sont en place avant l'application de la loi le 17 octobre dernier sur la légalisation de la marie. Et il y a des causes devant les tribunaux qui ont déjà été acceptées, qui ont déjà été contestées. Alors oui, c'est une façon de voir si la personne conduit ou du moins est en état de capacité affaiblie. L'agent évaluateur en reconnaissance de drogue viendra par après, évidemment, le test d'urine, puis le refus ou non, pour déterminer quel type de drogue. Mais ça, c'est indépendamment d'un appareil qui soit fiable ou non.
Et là, on parle du Dragger Drug Test 5000.
Ouais. Ben, en fait, pour bien comprendre, quand on parle de la... Il doit y avoir un affaiblissement des capacités à quelque part. Là. Donc, quand on parle de deux infractions distinctes, c'est-à-dire que quand on est reconnu coupable ou qu'on est accusé d'avoir eu les facultés affaiblies pendant qu'on avait la garde des contrôles ou pendant la conduite, à ce moment-là, on ne parle pas de taux à nulle part, que ce soit en alcool, rien. Donc, il faut que les gens se sortent de la tête de dire « Ah, oh, j'ai pas de problème si je suis en bas de 0.8 », c'est pas nécessairement vrai. Alors donc, dans ce cas-là, il faut toujours penser à l'affaiblissement des capacités. Et maintenant, pour en revenir à ce qu'on disait sur les agents évaluateurs, une chose aussi qu'il faut faire attention avec les nouveaux ajouts qu'il va y avoir à partir du 18, c'est-à-dire qu'on leur donne automatiquement un statut de témoin expert à la Cour. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont venir donner une opinion à la Cour et une expertise repose généralement sur une expérience. Hein, c'est des gens qui ont... Et là, on est dans une situation où, bien que je comprends qu'il y a des policiers qui ont commencé un petit peu avant, on peut avoir un témoin expert à la Cour, on ne pourra pas venir soulever son caractère d'expert, il va pouvoir venir donner son opinion directement, il peut avoir fait une intervention comme on peut avoir un policier qui va avoir eu deux ans d'expérience.
François, il n'est pas d'accord, François.
Non, pas tout à fait, ils n'ont pas commencé juste avant le 17 octobre, ils ont commencé, ça fait des mois, voire un an.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Oui, mais c'est pas beaucoup quand même.
Mais il y en a, puis ils ont témoigné à la Cour et ils ont été reconnus comme... pour pouvoir témoigner dans ces cas-là. Évidemment, la pratique va faire en sorte que, oui, il va peut-être en avoir plus.
Mais je pense que...
Faut faire attention à ce que je dis là, à ce moment-là, c'est qu'avec à partir du 18 décembre, le statut de ces gens-là à la Cour est un statut de témoin expert et qui ne pourra pas être contesté par la défense. Alors, dans ce contexte-là, ils vont venir témoigner en tant qu'expert. Et ce que je fais simplement dire, c'est que ça va être un peu inégal en expertise. On s'entend qu'un expert, la plupart du temps, va avoir traîné son bagage pendant plusieurs années.
Mais... dire à quel point les mesures en nanogrammes et la politique tolérance zéro est un peu inopportune. Selon beaucoup d'études, mes collègues sont probablement d'accord, 5 nanogrammes de THC dans le sang, bon, c'est grosso modo l'équivalent de 0.08. Donc, on s'entend.
OK, mais moi, parle-moi en termes de joint. Ben, un joint, c'est combien?
Ben, c'est ça. Ben, j'y arrive, Isabelle.
Ou de puff.
Si on considère que 5 nanogrammes, c'est l'équivalent à peu près de 4.08, ça veut donc dire que si on est en bas de 5 nanogrammes, 4, 3, 2, 1, ben on devrait être, entre guillemets, on devrait être legit, on devrait pouvoir conduire, puisque à 0.08, on estime que c'est à partir de là qu'on a établi arbitrairement un peu, mais enfin qu'on a les capacités affaiblies. Alors, c'est pour ça que... Puis, il y a une autre étude qui dit que, selon la personne, selon le métabolisme, une puff d'un joint, ça peut faire grimper à 7, 8, 10 nanogrammes de THC dans le sang.
Méchant
quand on
pouf.
Atteint le pic, parce que le pic est... Oui, c'est ça. Ben, et c'est ça. Fait que c'est pour ça que va vraiment, en tout cas, à mon sens, se fier sur les experts en connaissance de drogue, bien plus que sur les machines, parce que la technologie n'est pas vraiment, je pense, fiable là-dedans.
François?
Et c'est là où il faut faire la différence entre la conduite avec les capacités et le taux.
Oh oui, bien sûr.
Parce que, comme policier, moi, j'ai vu bien souvent dans ma carrière, puis je pense que les gens qui sont avec moi ici... Les avocats ont vu des gens dont le taux d'alcool dans le sang était en deçà du 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, mais qui avaient aussi des capacités affaiblies. Je l'ai vu. J'ai vu aussi des gens qui avaient 120 mg puis qui n'avaient pas l'air chaud, partout. Fait que donc, faut vraiment faire les tests, faut vraiment pousser plus loin, faire l'enquête. Alors, soyons prudents. Et en matière de facultés affaiblies, il a déjà été dit... Puis moi, je suis d'accord avec ça. Je le partage avec les auditeurs que dès la première consommation, peu importe ce que c'est, les capacités, doucement, tranquillement, commencent à être affectées.
Que ce soit de l'alcool ou
du pot. Que ce soit de l'alcool, une drogue, un médicament d'ordonnance. Quelqu'un qui va prendre du Dilaudide pour un mal sévère va voir ses capacités, à un moment donné, diminuer tranquillement, lentement, mais sûrement. Ça aussi, il faut faire attention.
Et un mélange cannabis-alcool...
Michel Morin.
Et un mélange cannabis-alcool, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Parce que ça accroît vraiment les risques dans la conduite, là, c'est certain.
Et ça tombe bien parce que, justement, ce matin, aujourd'hui même, le Éduc-Alcool, que vous connaissez bien, lance sa publication Alcool et cannabis, un bien mauvais mélange. On va parler d'ici une quinzaine de minutes à Hubert Sassy, qui est directeur général de l'organisme Éduc-Alcool, qui va nous rappeler d'ailleurs pourquoi. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des choses, si tu fumes avant de boire, ça n'a pas le même impact que si tu bois avant de fumer. Saviez-vous ça, vous autres?
Non, moi, personnellement.
OK, bon, répétez.
Ouais.
Si tu fumes un joint, puis tu bois de l'alcool après.
Moi, j'avais compris, mais
de ce que je comprends.
Je l'apprends, oui.
Ben, t'as une différence. C'est pas la même chose qui se passe sur ton corps que si tu bois de l'alcool puis tu fumes un joint après. C'est comme si, puis Hubert Sassy va l'expliquer, là. Moi, je savais pas ça. Mais il semble que l'effet du cannabis avant de boire de l'alcool fait que dans le sang, l'alcool est moins vite absorbé.
Mais il y a tellement
de facteurs. Ce que je dis, là, c'est que ça peut être tentant de fumer pour moins avoir d'effet d'alcool.
Ouais.
Mais on verra ce qu'il en dit tout à l'heure.
Mais le pire scénario, puis je le dis à l'approche des fêtes, pour ceux qui vont expérimenter la substance dans le temps des fêtes, quand c'est pris sous forme comestible, et ça, on ne le dira jamais assez, l'effet est différé.
Oui.
Ça peut prendre trois quarts d'heure
fait.
À deux heures avant que l'effet embarque. Et je vous dis, ça peut être le train de cinq heures qui arrive. Parce que ceux qui ont mal dosé leurs brownies, attention, là, allez surtout jamais prendre le volant après avoir mangé quelque chose au cannabis.
On le dit aussi, vaut mieux le fumer, vaut mieux l'inhaler que de l'ingurgiter. Là, parce que dans l'estomac, ça a un effet autre. Mais il y a aussi toute la question, là. T'sais, mettons que toi, t'es conducteur, OK? T'es au volant de ton véhicule, t'as pas bu, tu suis nez rouge, là, t'sais, t'as pas bu, t'as pas fumé. Mais dans ton véhicule, t'en as, là, c'est la grosse tablette puis le joint. Mais tu respires ça, là. Ça veut dire que...
Tu peux justement,
comment tu gères ça?
C'est question d'être conséquent. Quelqu'un qui va conduire avec des gens qui fument du cannabis et qu'on parle de taux, d'inhaler, c'est pas tellement brillant. On sait qu'on va courir après les problèmes.
Oui, mais monsieur l'agent, j'ai pas fumé.
Non, mais attention, on veut parler d'un affaiblissement des capacités. On parle pas nécessairement toujours de taux. Donc, si, admettons, cette personne-là, pour une raison X, vous savez, l'affaiblissement des capacités, il peut avoir des malchances. Hein, quelqu'un qui ramasse un CD à terre et puis là, à ce moment-là, donne un petit coup de roue. Hein, le policier l'arrête et là, à ce moment-là, regarde comment ça se passe pour lui. On est dans une question de vraiment comment ça se passe sur la route, comment je me sens quand je conduis. Et là, on n'est pas du tout dans un taux. Donc, moi, s'il y a des gens qui fument dans notre voiture, prenez donc pas de chance. Courez pas après.
On va aller voir ce que les auditeurs en pensent. Je vous demande si, par exemple, vous fumez un joint, vous prenez le volant. Est-ce que vous pensez que vous aurez toutes les facultés nécessaires pour conduire votre véhicule? Et à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, j'entends vos commentaires déjà. 514-790-9850. À tout de suite. Alors, je vous demande, si vous fumez un joint et que vous êtes tenté de conduire, de prendre votre véhicule, est-ce que vous avez toutes les facultés pour conduire d'après vous? Évidemment, vous allez me dire, c'est une question de métabolisme, c'est un peu du cas par cas, mais pour un policier, ce que viennent nous dire nos invités, Maître Eric Lamontagne, Michel Morin, qui a écrit l'essai « Au cannabis », François Doré, qui est un policier à la retraite, ben, visiblement, vous allez pouvoir, vous allez peut-être devoir souffler dans la balloune ou répondre à toute autre question et test, un test salivaire, par exemple, ou autre, parce que les policiers vont pouvoir, de façon aléatoire, vous demander de passer le test. On a avec nous François, bonjour.
Bonjour Isabelle, bonjour messieurs.
On vous écoute.
Ma question est tout simplement que je suis un consommateur de cannabis depuis longue date et j'ai déjà arrêté 6 mois de temps dans ma vie et j'en avais encore des traces dans mon urine et dans mon sang. J'aimerais savoir comment on va procéder pour vraiment vérifier, parce que de chaque personne, le taux est différent. Puis moi, si je fume pas aujourd'hui puis je prends mon véhicule, je suis convaincu que s'il y a un policier qui m'arrête aujourd'hui, que j'ai des traces de THC dans mon sang. Fait que c'est ça, je comprends pas où est-ce qu'on peut amener quelqu'un avec un test, dire, ben excusez-moi, mais vous avez du THC aujourd'hui, mais oui, mais j'ai pas consommé depuis 24 heures minimum. Fait que ça va être vraiment, il y a des zones grises dans ces
tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ben oui, mettre la montagne là-dessus.
Oui, je suis d'accord qu'au niveau de bon, il y a pas, on parle d'un grand débat qui n'ont pas tous les mêmes effets.
Ouais.
Il n'y a pas tout le même pouvoir du pot, comme on dit, au niveau de taux de THC, mais n'oublions pas, je reviens encore à l'affaiblissement des capacités. Parce qu'on est dans une situation où les policiers, s'ils veulent nous prendre un échantillon de salive, ils doivent avoir des motifs, contrairement à l'alcool maintenant. Donc, à ce moment-là, faut pas non plus craindre qu'automatiquement, on va constamment se faire arrêter et qu'ils vont soupçonner qu'on
OK, donc pour la salive, pour le pot, ils peuvent pas te demander ça comme ça aléatoire.
Ça prend des motifs.
Ça prend un motif.
L'affaiblissement des
capacités. Genre, ça pue dans ton auto, ça sent le pot.
Ou l'affaiblissement des capacités sur la route.
Ou t'as l'air de pas bien, t'as l'air d'être affaibli.
Pensez au policier qui vous suit. Il va regarder de votre conduite, de quoi ça a l'air. S'il y a une conduite erratique, ça louvoie d'une voie à l'autre. Il y a de très bonnes chances qu'à ce moment-là,
qu'il l'interprète. Oui, mais c'est subjectif aussi quand même.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres signes et symptômes.
Oui, François.
Attendez, moi, personnellement, là, comme je vous dis, je suis un consommateur de longue date. Fumer un joint, pour moi, c'est comme fumer une cigarette présentement. Si le policier m'arrête, là, il va. Si il n'y a pas aucune odeur dans mon véhicule, il ne saura jamais en me regardant et dans mon dialogue et dans comment j'agis que je suis en consommation de cannabis présentement.
Mais à ce moment-là, pourquoi vous arrêterait-il?
Ben, c'est ça la question.
Parce qu'il y a un barrage, mettons, pour Noël.
Ben, peu importe. Puis à partir de là, c'est pour ça que je vous dis, pourquoi tu m'arrêterais? Je suis d'accord, parce que si ma conduite est normale, si à long terme, puis je le sais que c'est pas bien, là, mais j'ai déjà conduit sur l'état du cannabis, puis ma conduite n'a jamais différé, parce que je travaille sur la route, je suis constamment 8 heures par jour sur la route. Je vous dis pas que je
est-ce que vous fumez pendant... Ouais, c'est ça, est-ce que vous consommez?
Non. Okay. Justement, je suis quelqu'un de... façon de parler, là, quand il y a quelqu'un de responsable, dans le principe où je viens juste de dire que j'ai déjà consommé en chauffant, mais je veux dire jamais sur le travail.
Okay.
C'est comme les gens qui consomment de la boisson, c'est très rare que tu vas voir quelqu'un en boisson sur le travail.
Ouf.
Mais dans mon temps libre à moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis pas un exemple, je le sais, mais comme je vous dis de ce principe-là, où que, si le policier voit aucune faculté, que je m'en vais pas de croche, que... Je trouve qu'on met ça tellement pire qu'on fait comme la chasse aux sorcières parce que maintenant, c'est rendu légal. Mais quand c'était illégal, on avait moins de répercussions qu'aujourd'hui, quasiment. Là, on dirait qu'on a mis tellement de réglementations ou quoi que ce soit. Je considère ça comme quasiment de l'impôt différé où on va mettre des étiquettes pour X raisons. On n'a pas le droit de consommer en marchant dans la rue. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Mais avant que ça soit légal...
Tous
les gens se donnaient ces droits-là.
Ouais, mais
la police faisait rien. Mais maintenant, vu que c'est légal.
Ouais.
Michel Morin.
Oh oui, mais François, regarde, je suis tellement d'accord. J'avais écrit un texte qui a passé dans Le Devoir le mois passé. Le titre, c'était, il y a 2 mois, c'était « Le cannabis devient illégal le 17 octobre ». Dans le sens que, t'as tout à fait raison. On dirait, et là, c'est parce qu'on envisage le scénario du pire. Les villes interdisent ça partout sur leur territoire, tout ça, ainsi de suite. Il y a des amendes de fous si on est prêt à fumer dans un lieu public où on n'a pas le droit de fumer, tout ça. Mais on oublie une chose, c'est que, en général, les policiers ont du jugement. Les policiers, à un moment donné, ils vont à l'exercice du jugement-là. C'est pas vrai qu'un policier, un jeune, va fumer un joint dans un parc, il y a personne alentour, dérange personne, qui va y infliger une amende de 500 $, même si techniquement, il pourrait le faire. À un moment donné, je pense qu'il va y avoir un exercice de jugement, et c'est pas vrai, je pense pas, parce qu'il va y avoir un drug tester dans la voiture, que les policiers vont systématiquement s'amuser à dire, ben, je vais faire passer le test salivaire à tous les conducteurs s'ils n'ont pas de symptômes. Il va falloir, à un moment donné, se fier au travail, au jugement des policiers là-dedans. Mais on dirait que
oui, on est dans une espèce de climat de politique du pire, mais sur le terrain, je pense pas que ce soit comme ça que ça se décline. Mm.
Merci. Non, ben, merci, d'accord. François. François Doré, t'es d'accord?
Ouais, ben, oui, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, Michel, parce que le jugement existe toujours. Les conducteurs, il y en a des centaines, des milliers, les voies rapides, évidemment, même dans les villages, il y en a toujours. Et le jugement existe toujours et devra exister. Et c'est ça qui, à un moment donné, sera soumis à l'approbation.
Mais il y a beaucoup de subjectivité, moi, c'est ça que je comprends. Là.
Oui et non. Ça dépend. C'est vraiment du cas par cas, Isabelle. C'est vraiment du cas par cas. Écoute, d'arrêter quelqu'un, puis de...
C'est comme aux États-Unis. Aux États-Unis, là, moi, ça me dérange d'être dans un État où un policier, à n'importe quel moment, parce que ça y tente, il peut me demander, OK, tasse-toi, montre-moi tes papiers.
Oui,
ça fait la chose aussi.
OK, pourquoi? Moi, c'est pourquoi, là?
C'est ça.
Moi, attends, je te sors pas mes papiers de suite, là.
Non, non.
Aux États-Unis, c'est, hey, donne-moi tes papiers. T'as tellement peur, puis que tu te dis, ma foi, peut-être je vais tomber sur un fêlé que tu les sors, parce que t'es Canadien en plus et pas Américain.
C'est ça.
Mais ici, se faire ça, moi, moi, te regarder avec les gros yeux, François, si tu m'arrêtes.
Ben, j'espère bien, parce que t'as le droit de demander pourquoi. Parce que le policier,
pourquoi? Parce que je veux vérifier ton identité. Puis, voyons, c'est pas un état policier, ici.
La première voiture rouge, il va le vérifier ou quoi que ce soit. Aux États-Unis, on s'entend. Les shérifs, ils sont élus. Alors, on va mettre ça de côté des États-Unis. Au Québec, au Canada, le jugement existe encore. Et les policiers ne peuvent... parce que ça leur tente, juste pour le fun, juste pour vérifier, juste parce qu'ils aimeraient ça voir intercepter telle voiture et prétendre autre chose. Le policier est dans le trouble à ce moment-là.
C'est pas dans la culture policière ici.
Non.
Vraiment pas comme aux États-Unis. Puis on entend des histoires d'horreur comme, tu sais, moi ça me fait penser au bug de l'an 2000, tu sais, il y a des gens qui me disent, ah ben là maintenant, si tu veux traverser aux États-Unis, à la douane, on va pouvoir te demander, as-tu déjà fumé du cannabis dans ta vie? Allô? Un, c'est absolument impertinent comme question. Un douanier n'a pas demandé à quelqu'un « As-tu déjà fumé du cannabis dans ta vie? »
Un douanier américain peut te demander n'importe quoi, Michel.
Mais on peut, je ne dirais pas à demander à un douanier.
Essaye d'y dire « Vous êtes un porteur, vous? »
Ouais.
Juste pour le fun. Essaye pour le fun de voir ce qui va passer.
Oui, mais on jase entre nous, là, dans le sens que moi, quelqu'un qui... un douanier te demanderait « As-tu déjà fumé du cannabis dans ta vie? »
Tu dis non.
Ben, je pense que tu n'es pas obligé nécessairement de dire « Oui, j'en ai fumé en 88, franchement, là. » Soyons sérieux. Là.
Ouais. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On va parler au directeur général d'Éducalcool tout de suite après la pause. Il va nous dire ce que ça fait. Fumer du cannabis et boire ou boire et fumer du cannabis. Vous pouvez ne pas le faire non plus. On vous parle tout de suite après avec vos commentaires 514-790-9850.
Bonjour.
Alors, vous lancez ce matin alcool et cannabis, un bien mauvais mélange. Et en lisant ça, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que vous expliquez qu'il se produit un drôle d'effet lorsqu'on consomme du cannabis avant de boire de l'alcool, qui n'est pas le même effet que si on boit de l'alcool et qu'on fume du cannabis après.
Absolument. Écoutez, d'abord, c'est une très, très mauvaise idée, comme vous l'avez dit, de mélanger les deux, parce que chacun renforce l'effet de l'autre, mais ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Donc, ça ne fait pas 1 plus 1 fait 2, ça fait 2 multiplié par 2, ça fait 4. Deuxième chose qui est importante, comme vous l'avez dit, quand on consomme de l'alcool avant de fumer, l'effet du cannabis est augmenté, parce que l'alcool dilate les vaisseaux sanguins, et le THC pénètre dans le corps plus rapidement et donc l'effet du cannabis augmente beaucoup plus. Alors que lorsque l'on fume du cannabis d'abord et que l'on consomme de l'alcool après, ça ralentit l'ingestion de l'alcool. Le taux d'alcoolémie va être le même, la quantité d'alcool dans le sang va être la même, mais la pénétration de l'alcool dans le sang va être ralentie et donc c'est un effet vraiment tout à fait opposé. Cependant, il faut savoir une chose, c'est que le mélange alcool-cannabis aussi a quelque chose d'extrêmement dangereux, c'est que lorsque l'on a trop bu, notre corps se défend et il vomit. Par contre, lorsqu'on a consommé du cannabis, ça peut avoir pour effet d'empêcher ce vomissement-là, et à ce moment-là, ça peut être particulièrement dangereux.
Mm-hmm. Mais donc, là, si on vous comprend bien, si on veut fumer puis boire en même temps, on sait, là, on a compris votre message, c'était pas une bonne idée.
Ouais.
Mais disons qu'on vous écoute, puis il y a plein des gens qui pourraient dire, ben, je vais fumer du pot, ensuite je vais boire. J'ai même quelqu'un qui m'écrit qu'il a fait le test, puis lui, c'est un habitué, puis il dit, moi, quand je fume mon joint, après avoir bu, je me rends compte que ça me dessoule un peu. Moi, je m'en sers, c'est... il me dit, fumer du pot quand on commence à être trop saoul, ça dessoule. Pas sûr. Moi, je ne l'ai pas testé, fait que je ne peux pas vous dire si c'est vrai. Mais
honnêteté, c'est pas exactement ce que dit la science. C'est peut-être que lorsqu'il fume le pot, il est moins sensible à ce qui se passe dans son corps, ce qui est une très grande possibilité également. Donc, la réalité, c'est tout à fait objectif. Hein. Ce sont des études scientifiques, ce ne sont pas des inventions d'éducalcool.
Mais c'est bien marqué dans votre document d'aujourd'hui. Les effets du cannabis diminuent le déplacement des aliments à travers le système digestif et limitent ainsi l'absorption de l'alcool.
Absolument. Ça ralentit, ça limite l'absorption de l'alcool, ça la ralentit.
Je savais pas ça. Hein?
Mais ce qu'on a bu, on l'a bu pareil. Là. Et il est dans notre corps quand même. Et le foie va avoir à le métaboliser quand même.
Et donc, si on se fait arrêter par la police, M. Sassi, ça va être quoi l'impact?
Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu prends un seul verre d'alcool et un joint, c'est plus... On est en état d'incapacité de conduire supérieure à si on avait 0.08 d'alcool dans le sang. Donc, c'est véritablement un effet tout à fait exponentiel énorme. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de que tu boives ou que tu bois pas de l'alcool, en matière de cannabis, c'est 0.0000. Donc, si on a la moindre trace de cannabis dans le corps, la police est en mesure de nous arrêter. Ce qui signifie que il y a même pas de discussion ou de question à se poser à ce sujet-là. Si on a fumé, on ne conduit absolument pas. Il n'y a pas de 0.02, 0.03, 0.04 en matière de cannabis. Il y a 0.00.
OK. François Doré, une question?
Oui, j'ai une question pour vous, M. Sassi. Vous dites que ça ralentit ou ça empêche, la consommation, mais l'accumulation de l'alcool. Est-ce que ça ne fait pas disparaître, cependant? Si ça ralentit l'absorption, ça ne fait pas disparaître?
Absolument pas. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer le plus clairement du monde. La quantité d'alcool que vous avez dans le sang reste la même. Votre foie va avoir à métaboliser exactement la même quantité d'alcool. Votre taux d'alcoolémie va tarder à monter, mais il va monter là où il doit arriver.
Okay.
Il n'y a rien qui disparaît, là.
Okay.
Tout ce qui rentre dans votre corps doit être éliminé.
Mais ils sont absorbés différemment selon... Mais vous dites quand même... Hubert, vous dites quand même que l'alcool et le cannabis sont absorbés différemment selon l'ordre dans lequel on les consomme.
Absolument, absolument. Parce que quand on commence par l'alcool, l'effet du cannabis augmente et il rentre très, très, très rapidement dans le sang. Alors que lorsqu'on consomme du cannabis, ça ralentit la rentrée de l'alcool dans le sang.
Fait qu'on va fumer du cannabis d'abord.
Oui.
Si vous buvez et fumez, fumez d'abord.
Non, si vous voulez dire, oui, tout à fait. Si vous voulez donner un conseil de ce genre-là, oui, c'est en réalité le moindre mal, ça serait ça. Mais
non, mais c'est pas moi qui le donne. Je trouve que c'est votre document qui nous incite à comprendre ça.
Ben, écoutez, tout à fait. C'est ça. Moi, je ne peux rien. C'est ce que la science dit. Mais la science dit d'abord et avant tout qu'il est préférable de ne pas mélanger. Maintenant, s'il faut mélanger, limitez vos quantités. Et en limitant vos quantités en plus, ben, commencez donc par. par fumer d'abord, puis buvez ensuite.
Puis la modération... vous avez raison, parce que la modération est encore plus facile, je dirais, à adopter quand on parle de cannabis, quand on l'achète légalement. Toutefois, dans le sens que il y a du cannabis avec un taux de THC très faible. Si on est à 3-4 %, c'est pas comme si on a du THC à 15-18 %. Alors, évidemment que les effets sont moins importants. Et c'est des choses aussi à considérer. Je dirais, je conseille à personne d'en fumer, mais tant qu'en fumer, ceux qui en fument, prenez-en donc, le taux de THC est assez faible.
Mais ça, là, est-ce qu'on le sait, quel est le taux de THC quand on...
Oui, à la SQDC, oui.
À la SQDC, mais tu sais, ton brochure sur la rue qui te livre, là...
Non, qui va livrer à toutes les 18, 19, 20 ans qui n'auront plus le droit d'en acheter légalement.
Tu veux dire 14, 15, 16, Michel? 14, 15, 16?
Je faisais allusion à François Legault.
Vous savez, il y a des boissons à faible taux d'alcool, hein? Il y a des boissons à faible taux d'alcool. Il y a des cocktails à faible taux d'alcool. Sur notre site Alterne Alcool, là, par exemple, où il y a plein de recettes de cocktails sans alcool ou à faible taux d'alcool, ça, c'est une bonne solution. Parce que, en réalité, et permettez-moi de vous dire une phrase qui est vraiment très, très, très synthétique et qui exprime vraiment bien ce que nous voulons dire, c'est que, en matière d'alcool, la modération a bien meilleur goût. En matière de cannabis, la modération a deux fois bien meilleur goût. Mais quand on mélange les deux, la modération a trois fois bien meilleur goût. Autrement dit, soyons extrêmement prudents, réduisons les doses habituelles que nous prenons, simplement pour être plus prudents et pour éviter les effets renforçateurs l'un par rapport à l'autre.
On a Emmanuel qui est avec nous, justement un auditeur qui fume du cannabis en conduisant. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va très bien, nous, vous?
Ben moi, ça va très bien. Écoutez, je trouve ça, j'écoute les commentaires depuis tantôt, là, puis honnêtement, je trouve ça extrêmement dangereux, là, les commentaires que je vois des pseudo-spécialistes là, qui se prétendent connaître ces choses-là. Tu sais, on n'invente rien, là, des études, il y en a eu là, des tonnes et des tonnes partout sur la planète. Là, c'est pas d'hier que ça existe, c'est pas demain matin que ça va disparaître. J'ai deux points là, précisément à vous dire là-dedans. Le premier point, c'est, écoutez, le cannabis, là, c'est utilisé intelligemment. Moi, je n'étais pas pour la légalisation parce qu'effectivement, là-dedans, il y a un manque de connaissances flagrant. Puis nécessairement, il y a des gens qui peuvent mal l'utiliser. Moi, je suis un utilisateur depuis plus que 25 ans de ce produit-là. Je l'utilise pratiquement tous les jours, pas tous les jours. Je l'utilise au besoin, à bonne dose. Je choisis un produit qui est fait pour moi. Je choisis de façon responsable et j'abuse pas de cette substance-là. Je choisis parce que ça correspond, ça comble un besoin puis ça corrige un manque que j'ai là dans ma psychique ou dans mon physique et tout ça. Et pour moi, ça donne des résultats bien plus intéressant, en tout cas bien plus sain que plusieurs des médicaments génériques qu'on nous prescrit par des médecins qui sont, à mon sens, à moi, beaucoup plus dangereux. On m'a donné, il y a quelques semaines de ça, des dilodites parce que j'avais mal quelque part dans mon corps. Et sérieusement, il n'y a jamais personne qui m'a dit pas conduire là-dessus, là, mais ça n'avait aucun sens. J'en ai pris deux jours d'affilée, j'aurais jamais pu conduire.
C'est ce que disait François Doré d'entrée de jeu tout à l'heure. Là. Ouais.
Donc, il manque là-dedans à un moment donné. Je trouve qu'il y a beaucoup
mais
de
c'est pas cannabis, parce qu'il y a des médicaments qui vous fessent plus que le cannabis, que le cannabis au volant devient anodin non plus, Emmanuel.
Ben, écoutez, je comprends pour une personne qui va fumer une fois par deux semaines ou qui veut vivre une expérience, un jeune qui décide de fumer un joint un soir avec ses amis, effectivement, vous avez 100% raison. C'est pas un médicament simple. Il y a beaucoup de choses à connaître de ça. Première des choses, il faut bien se connaître en partant. Puis deuxième des choses, il faut bien connaître ce qu'on met dans notre corps. Donc, quand je vois le gouvernement qui veut mettre ça à 21 ans, puis je me dis, les petits jeunes vont encore continuer à aller dans la rue, s'acheter des produits, ça n'a aucun sens dans mon livre à moi.
Oui, merci. Et vous dites aussi, bien se connaître, c'est l'œuvre de toute une vie. Là. Ouais. C'est l'œuvre de toute une vie de bien se connaître. Ouais.
Il y a un parcours. Ouais, moi, j'en bois pas d'alcool, madame, puis je boirais jamais, je prendrais pas une bière puis je conduirais. Je peux vous dire, par exemple, que quand je pars le matin puis que je prends deux ou trois petites puffs de mon joint pour aller faire ma journée parce que je sais que j'ai mal dans le dos, parce que je sais que je vais avoir une meilleure concentration, c'est sûr que je suis pas un danger. Ce que je trouve dangereux dans l'approche des deux policiers que vous avez parlé précédemment, c'est, on est dans un système de droit civil, okay, puis là, on dit qu'on va donner ou à des policiers qui ont, je m'excuse, là, mais une technique policière, donc 3 ans d'études au cégep, on va leur donner le jugement et le droit de m'arrêter de façon tout à fait aléatoire et de déterminer si moi, j'ai fumé ou non, ou quand j'ai fumé. Puis quand j'écoute M. Sassi dire, écoutez, vous avez le droit d'avoir zéro dans votre sang, moi, j'en ai dans mon sang tout le temps, depuis toujours.
Ouais. Je vais donner la parole. Merci, Emmanuel, c'est intéressant tout ce que vous nous présentez. Hubert Sassi là-dessus, puis ensuite, oui. François Doré, le policier.
Moi, ça va être très... Non, moi, ce que j'ai dit, moi, j'ai répété ce que la loi, ici, au Canada, a indiqué. Je suis pas en train de porter... Je ne porte aucun jugement de valeur... Ni je suis en train de diaboliser le cannabis. Je dis simplement que ce que la loi dit, c'est que si on se fait prendre avec la moindre trace de cannabis dans le corps, on est sanctionné. C'est tout. Ça, c'est le fait. C'est ce qui en est. C'est sûr que si monsieur semble avoir une saine relation avec le cannabis, ben, tant mieux. C'est parfait comme ça. Il ne s'agit surtout pas de diaboliser le cannabis, d'autant plus que faut pas ni diaboliser, ni banaliser, ni l'alcool, ni le cannabis. Dans les deux cas, les deux substances ont des effets et il faut les connaître. Après ça, chacun prend ses décisions et assume les conséquences de ses décisions du mieux qu'il peut.
Merci beaucoup, Hubert Sassi. On s'arrête
ici.
C'est
moi qui vous remercie. Bonne journée.
On revient après. Je vous présente mes invités. François Doré, policier à la retraite. Michel Morin, qui est avocat, qui a écrit également l'essai au cannabis. Maître Éric Lamontagne, qui est avocat criminaliste chez Contravention Expert. J'aimerais vous entendre sur l'intervention de notre auditeur, Emmanuel Michel Morin.
Ben, rapidement, c'est qu'Emmanuel, de toute évidence, craignait d'être arrêté à
10 minutes. Lui, il dit, j'abuse pas.
Mais oui, c'est ça. Et j'ai compris, j'ai bien écouté. Et c'est un, de toute évidence, c'est un usager entre guillemets, c'est un usager plus thérapeutique que récréatif, dans le sens qu'il le prend, tu sais, parce que bon, il y a des douleurs et tout ça, et ça l'aide. Et effectivement, puis c'est un nouveau paradigme, ce qu'on n'avait pas avec l'alcool ou le tabac. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui sont à cheval entre la consommation récréative et thérapeutique, qui vont en prendre pour se relaxer, pour aider à dormir et tout ça, et qui en prennent donc, tu sais, quotidiennement.
Mais ça, ça va être une défense?
Ben, ça va être une défense dans le sens que ces gens-là, s'ils conduisent, regarde bien, Isabelle, si une personne, bon, en prend pour soulager des douleurs, le lendemain, conduit son véhicule et est absolument en parfait contrôle d'elle-même, il n'y a pas un policier qui va la soumettre à des tests salivaires parce que de toute évidence, la personne, ben, un policier zélé pourrait le faire, bien sûr, mais règle générale, le policier, s'il n'y a aucun symptôme d'intoxication à l'alcool ou aux drogues, ne fera pas passer le drug test et tout ça. C'est, ça n'arrivera pas, là, je veux dire.
Je sais pas, François Doré. En tout cas, quand t'as parlé, François, du jugement des policiers,
ben...
ça a généré beaucoup de commentaires dans ma boîte.
Oui, ben c'est ça, c'est une question de jugement. S'il n'y a pas lieu,
oui, mais le monde met en doute le jugement des policiers, c'est ça.
Ben
que
oui, il s'agit, puis Michel l'a très bien dit, il s'agit de rencontrer un policier tout croche dans sa vie pour que le reste des policiers soient des tout croches, ce qui n'est pas le cas. Généralement, puis
heureusement, il y a District 31.
ouais.
Tu regardes ça, t'as envie d'être une police.
Oui, OK. On peut en parler.
Éric Lamontagne.
On en revient à la base, là, c'est que dans n'importe quel contexte, le concept d'affaiblissement de vos capacités, vous ne prenez pas la route si vous ne vous sentez pas en pleine forme.
Oui, mais la défense de pot thérapeutique, t'en fais quoi?
Non, il faut faire attention parce que le pot thérapeutique sont soumis aux mêmes lois que le reste des gens. Là.
Oui.
Donc, dans ce contexte-là...
Même avec un papier de médecin, tu montres ça aux policiers qui t'arrêtent.
Oui. L'affaiblissement des capacités, c'est pour tout le monde. Là. Okay. Tu sais, on parle souvent des gens. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui avait un taux 332. C'est un taux qui était très élevé.
Mon Dieu, il marchait?
Curieusement, les signes et symptômes n'étaient pas si catastrophiques que ça. Ça veut juste montrer qu'il y a vraiment des gens qui ont l'impression, vraiment, ils ont une habitude de consommation. Et ces gens-là ont une certaine tolérance.
Ça, c'est 332 quoi, là?
Milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.
Un 3.32?
Non, c'est 332. Quoi? La limite légale, c'est 80 mg.
Ouais, là,
c'est quatre fois la limite.
Il y avait quatre fois la limite.
Et le soir, il a pu aller coacher à la voix, comme d'habitude. Non, c'est une joke.
Ah, Michel, tu n'as pas dit ça.
Mais c'est parce que ça c'est...
Excuse-toi.
Ce taux-là, c'est pas loin du coma éthylique. C'est ça qui est incroyable.
Ouais, c'est fou.
Mais donc, tout ça pour dire qu'il faut... On pense... Ne nous mettons pas dans une situation qui pourrait vraiment nous mettre dans un doute. Oui,
mais tu disais que donc ce gars-là a quatre fois la limite.
Ben oui.
Alors, il marchait pareil, il était debout.
Dans sa tête à lui, c'était pas si pire. Hein? Il a pris le volant. Donc, dans ce contexte-là, pensez-y, 332, une limite de 80, on est loin en Moses de la limite. Mais cette personne-là a cru bon conduire parce que dans sa tête, ça allait quand même pas pire.
Ouais.
Alors, ne prenons pas de chance.
Tu disais, la nouvelle loi nous enlève à nous, les avocats de la défense. Ça va nous enlever des possibilités de défense.
Ben, c'est-à-dire que quand on enlève, entre autres, la possibilité d'avoir la défense de la dernière bière, comme on voit ce qui s'est passé avec M. Grondin cette semaine, Marc-André Grondin, dans ce contexte-là...
Rappel pour les gens qui l'ont
manqué. C'est-à-dire que la défense de la dernière bière, là, c'est un cas d'exception. Il faut comprendre qu'on est dans une situation où quelqu'un va prétendre qu'il a eu une consommation qui est contemporaine au fait qu'il a pris sa voiture. Donc, un party de bureau, je prends 3-4 bières dans la soirée, et juste avant de partir, j'en cale une et je pars avec mon véhicule. Je me fais arrêter dans...
Genre une petite bière pour la route.
La petite... Ouais, appelons-la comme ça pour l'histoire. Et là, rendu là, on se fait arrêter pas longtemps après avoir bu cette bière-là.
Mais t'as bu.
Oui, absolument. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose. Cette défense-là repose sur le fait qu'au moment où j'ai été arrêté, je n'avais pas encore métabolisé cet alcool-là et je n'avais pas les effets, autrement dit.
Ah, c'est ça, la défense de la dernière bière.
Exactement.
Mais quand on passe l'alcool test plus tard, là, on l'atteint.
Tu as mangé des muffins aux potes à Checkpoint à l'heure.
Hey.
Ouais. Mais donc, ça, tu n'auras plus ça?
Ben, il faut comprendre, là, juste pour que les gens comprennent, c'est une défense d'exception. Il y a plusieurs qui
l'ont rencontré. Puis l'autre
affaire,
tu me disais, il y en a deux.
C'est-à-dire qu'aussi, au niveau de. On demande des doutes raisonnables, autrement dit, au niveau du pot, du cannabis, mais on va pouvoir faire souffler les gens directement dans un appareil de détection d'alcool, ce qui va quand même couper au niveau des motifs d'interception et des possibilités de requête en vertu de la charte.
Ouais. François Doré.
Défense de la dernière bière, il faut comprendre qu'il y a un processus pour amener quelqu'un devant un inversomètre.
Ouais.
Un test
d'alcool. Cannabis,
et
les tests salivaires,
entre autres.
Il y a un temps
à respecter aussi.
Ouais.
Alors, la personne qui quitte le bar puis qui prend sa dernière bière ou une bière, et c'est la seule qu'il a pris, et 15 minutes après être interceptée, est arrêtée, conduite
dans l'inversomètre. Mais s'il a fumé en même temps?
Bon, c'est autre chose, ça. Je pense que les tribunaux vont voir certains de ces cas-là.
Mais il va y avoir des contestations.
Ah, absolument. Puis il le faut. Il va falloir établir un processus, une procédure, une façon.
On viendra sur les appareils parce que là, bon, faut pas s'énerver. Là. On dit que c'est d'ici à 5 ans qu'on va les voir. Mmh. Donc, on a le temps de s'en rejaser pas mal. Michel Morin, un petit mot en terminant?
Joyeux temps des fêtes à tout le monde et la modération au meilleur goût.
C'est ça. Et si vous buvez et fumez, faites l'inverse. Ouais. Fumez puis buvez. Moi, je retiens ça. Je sais pas pourquoi. Merci à tous les trois.
Conducteur désigné.
Ah oui, c'est vrai.